Lors du dernier podcast, je vous ai invité à faire des choix sans rechercher de shoot de dopamine. Donc dans ce podcast « Acheter des émotions », je m'arrêterai un peu sur la dopamine pour mieux faire connaissance et nous permettre de comprendre en quoi nous sommes disposés spontanément et beaucoup plus fréquemment que nous ne l'imaginons à acheter des émotions quand nous faisons des choix. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute praticien en relation d'aide et je vous accompagne pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour, bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Je suis ravi de vous retrouver pour ce sujet qui me tient à cœur et qui fait suite à celui de la semaine dernière, dans lequel je vous invitais tout simplement à comprendre comment allier action et émotion en m'arrêtant entre autres sur la dopamine. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va s'arrêter sur la dopamine pour essayer de mieux apprendre à la connaître. Et je voudrais commencer par vous la présenter de manière, on va dire, vulgaire pour que on n'ait pas l'impression d'être dans un cours, ce qui n'est pas du tout mon intention, d'autant plus que je ne suis pas médecin, ni neurologue, ni scientifique. Je vais vous partager quelque chose avec l'intention que vous compreniez de quoi on parle. On dit de la dopamine qu'elle est un neuromédiateur, et le docteur Antoine Giraud, qui est médecin et neurobiologiste, précise lui qu'il s'agit d'un neuromodulateur, et qu'il ne sert, je cite, « pas à transmettre une information instantanée, mais plutôt à moduler, à modifier des propriétés. » Donc je voudrais qu'on visualise la dopamine comme une sorte de médiateur qui va avoir un rôle de modulation et pas forcément un rôle impactant comme c'est le cas pour certains autres neuromédiateurs. C'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi neuromodulateur. Toujours en cherchant à parler un langage vulgaire, un langage commun, compris par tous, on pourrait dire que la dopamine, c'est une substance chimique qui est présente dans le cerveau, qui envoie des signaux des nerfs vers le corps. Il est peu fréquent que l'on mentionne un excès de dopamine. Par contre, il est plus courant que l'on parle d'une carence en dopamine. D'ailleurs, carence qui a des conséquences de déséquilibre du métabolisme, du fonctionnement humain, impactant le cerveau, la mémoire, l'apprentissage, la concentration, de ces choses qui sont de cet ordre-là, et puis aussi la notion de plaisir, de satisfaction quand on est en carence de dopamine. Donc il peut y avoir une carence de dopamine pour de multiples raisons sur lesquelles je ne m'arrêterai pas, mais en tout cas on sait qu'il y a quelques pathologies qui sont touchées par une baisse de dopamine ou un manque de dopamine, dont la maladie de Parkinson, qui provoque des tremblements avec une rigidité musculaire, des problèmes d'équilibre et de coordination. Mais on trouve également dans les pathologies touchées par un manque de dopamine, le trouble de l'attention, qu'on appelle TDAH, et qui va conduire à des difficultés de concentration, à des difficultés de contrôle de soi, avec donc de l'impulsivité, même si certains experts ne savent pas vraiment, ne sont pas tous d'accord, on va dire, sur l'attribution d'une carence dopaminique dans le cas des TDAH. Ce qui peut provoquer d'ailleurs un manque de dopamine, c'est un déséquilibre alimentaire, des régimes alimentaires qui sont carencés en certains neuromédiateurs ou neuromodulateurs. On peut aussi parler de manque de précurseur. Le précurseur, c'est la molécule chimique qui va participer à la création du neuromédiateur, du neurotransmetteur ou d'une enzyme. Voilà, donc s'il n'y a pas cet élément, le corps ne peut pas créer une chaîne pour fabriquer ce dont il a besoin. Donc on parle d'une situation d'inflammation qui va impacter, déséquilibrer et qui modifie le système qu'on appelle dopaminergique. Un manque de protéines dans l'alimentation peut participer à une baisse de dopamine, un manque de dopamine. On trouve que les personnes qui sont touchées par l'obésité ont également, généralement, une carence en dopamine. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont travaillés sur cette question de dopamine, mais en même temps, je dirais très peu, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de connaissances qui sont présentes dans le domaine vulgaire. Alors si vous avez envie d'aller lire des thèses doctorales ou des mémoires sur ce sujet, je vous encourage à le faire. Si vous avez la capacité à les comprendre, mais je voudrais, moi, vraiment ici être simple, accessible à tous. Je pourrais imaginer que vous vous demandiez si vous manquez de dopamine et que peut-être vous pourriez aller faire une prise de sang pour voir les marqueurs présents. Mais il faut savoir que les scientifiques peuvent effectivement mesurer les transporteurs de la dopamine qui sont corrélés avec les cellules nerveuses qui utilisent la dopamine. Pour ça, on injecte un produit radioactif qui va s'attacher au transporteur de dopamine. Et les scientifiques peuvent ainsi, grâce à un système de lecture avec des appareils, voir où on en est en termes de présence de dopamine et le rapporter à ce qui est normalement présent en moyenne chez un être humain. Mais en même temps, les médecins utilisent très peu ce genre de diagnostic parce que quand une personne présente des signes de carence de dopamine ou peut-être des symptômes qui pourraient être attachés à la carence de dopamine, eh bien, le médecin va avoir tendance à procéder à des tests qui concernent l'affection et pas seulement, ou en tout cas pas prioritairement, ou parfois même il n'y pense pas du tout, à tester la présence de la dopamine. Donc en cas d'obésité, de Parkinson, de TDAH ou autre, manque de sommeil, on va pas aller faire un test avec ces marqueurs pour aller voir si la personne a suffisamment de dopamine dans son sang. Donc c'est vraiment pas une approche qui est, je dis, communément répandue, même dans la pratique médicale, de considérer la présence de la population hormonale, on va dire neuromédiateur ou neuromodulateur de dopamine. Maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance avec un de nos alliés du bonheur, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, certains parlent de la dopamine comme l'hormone du bonheur, mais c'est pas la seule. Je voudrais que l'on se centre sur l'importance que l'on peut donner aux shoots de dopamine, comme j'aime les appeler, dans notre démarche quotidienne relative aux choix que nous faisons et qui concerne tout type d'activité, que ce soit une activité addictive, d'ailleurs dans laquelle on se rend compte que généralement il y a une carence de dopamine, situation qui n'est pas présentée dans les différents exemples évoqués tout à l'heure, mais on cherche cette dopamine-là et on la cherche même dans des choix de consommation quotidienne, de simples habitudes, je dirais-je, qui peuvent toucher à notre manière de manger, où on va être tenté par du sucré, par du salé, mais par une alimentation plaisir plutôt que par une alimentation qui tienne compte et du plaisir et de la pertinence d'un besoin pour répondre à un besoin, à un équilibre. Vous percevez que dans le domaine de l'alimentation, c'est pas systématiquement le cas, pour ne pas dire que c'est rarement le cas. Pendant des consultations de naturopathie, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez compris que je pratique aussi la naturopathie, il m'arrive de demander aux gens s'ils mangent équilibré d'après eux, et leur réponse est affirmative. La plupart du temps, oui, je mange bien, je mange sainement. D'accord ? Qu'est-ce que vous mangez, par exemple, au petit déjeuner ? Donc les personnes me mentionnent ce qu'elles mangent au petit déjeuner et je leur demande quels sont les apports de ce qu'ils viennent de me mentionner. Exemple typique, je prends un café sans sucre, parce que le sucre c'est pas bon pour la santé, disent certains, et puis je prends la brioche avec un peu ou du pain, de la baguette, un peu de confiture, du beurre, et puis je bois un bon jus d'orange pressé, je le fais maison, comme ça c'est du bon jus d'orange. D'accord. Alors monsieur, madame, quel est l'apport nutritionnel que vous avez dans ce que vous m'avez mentionné consommer lors de votre petit déjeuner? Quand je pose cette question, on me dit, bah, j'ai pris des vitamines, notamment vitamine C dans le jus d'orange, et puis après, c'est difficile en fait. Parce qu'on a de la difficulté à comprendre que on mange, oui, pour le plaisir shoot de dopamine, mais aussi pour répondre à un besoin. Or, quand on prépare son petit déjeuner, finalement, on se prépare un petit déjeuner émotionnel. On veut un shoot d'émotion, on veut du plaisir, que ce soit bon, etc. J'ai des séances de kiné pas loin de là où j'habite, et j'ai invité la kiné à dîner, parce que je la trouve sympathique, on s'est rapprochés en discutant de plein de choses, et je lui ai dit que je lui propose de lui cuisiner des blettes, parce que c'était la saison des blettes quand je l'ai invité à déjeuner. Elle m'a dit, mais je déteste les blettes, je n'aime pas les blettes. Voilà. En fait, on ne se pose pas la question de savoir si c'est bon pour la santé, on se demande d'abord si c'est bon pour la bouche. C'est encore un signe qui montre que l'on est prêt à acheter ou à consommer de l'émotion avant de consommer quelque chose qui serait bénéfique. Et le système de consommation dans lequel nous sommes, notre société a bien compris ça. Peut-être même a-t-elle participé à nous éduquer dans cette direction. Et j'en veux pour preuve l'impact de la publicité. Si je vous demandais combien de publicités vous regardez par jour, je suis persuadé que bon nombre d'entre vous seraient en difficulté pour me donner un nombre exact. Parce que vous n'êtes pas conscient du nombre de publicités que vous regardez par jour et que vous regardez soit consciemment, soit même inconsciemment. Ça veut dire que l'univers de la publicité vous est imposé à votre insu, où que vous soyez sur votre smartphone, sur votre tablette, ordinateur, télévision, dans la rue, dans un resto, en train de discuter avec des potes, au boulot, vous ne savez pas que la publicité vous impacte. Et qu'elle vous impacte non pas sur le plan cognitif uniquement, mais aussi et essentiellement sur le plan émotionnel, puisque les publicitaires travaillent d'arrache-pied pour veiller à ce que leur spot publicitaire, leur support publicitaire, touche prioritairement nos émotions. Ils sont en train, finalement, de manière pleinement résolue, déterminée, stratégique, en recherche de contournement de notre capacité d'analyse, de raisonnement, de décision, pour aller directement dans la sphère émotionnelle et nous faire décider, faire des choix qui soient des choix, je dirais, déraisonnés, déconnectés d'une lecture, d'analyse, et des choix qui sont donc fondés sur le shoot de dopamine. Finalement, quotidiennement, nous nous entraînons à faire des choix sponsorisés par la publicité qui vont arroser notre désir de ressentir du plaisir, de sécréter de la dopamine. Et vous savez que cette prise de conscience n'est pas évidente. Réalisons qu'il y a une intention stratégique construite qui coûte des millions, qui a pour intention de nous déposséder de notre capacité de raisonner pour faire des choix que nous n'aurons pas à regretter, des choix éclairés, dépourvus d'un shoot de dopamine, des choix qui ne sont pas des choix plaisir. Je voudrais quand même être clair pour dire que il n'est pas question, notamment sur Euro présent, mais dans la construction de son bonheur, de s'exempter de choix plaisir, de jouissance, de satisfaction. Vous avez bien compris que ce n'est pas l'objet. Par contre, ce que je veux promouvoir ici, c'est l'encouragement à faire des choix que l'on n'aura pas à regretter, à faire des choix qui sont des choix de construction, des choix effectués en pleine liberté, que l'on ne subisse rien, mais que l'on choisisse, que l'on soit acteur et co-acteur de sa propre vie. Et ce n'est pas du tout ce que veut faire le publicitaire, puisque son intention, c'est de faire que, à votre insu, vous achetiez ce qu'il vous propose. C'est la raison pour laquelle il n'existe quasiment aucune publicité claire qui ait pour objectif de s'adresser à notre raisonnement, notre analyse, notre jugement. Et c'est valable même dans la sphère politique pendant les campagnes électorales. J'ai fait il y a quelques années une conférence à Marseille dans laquelle je démontrais sur le plan politique à quel point la stratégie avait pour objet de toucher à nos émotions. Il existe un logiciel dont le nom m'échappe qui lit le visage, donc le comportement humain, et qui détermine les différentes émotions émises par le visage. On a mis cela en place sur des politiques pour voir quelles étaient les balances, ou plutôt les tendances d'expression émotionnelle, et on s'est rendu compte que là où il y avait une plus grande tendance d'expression émotionnelle relative à la colère, eh bien, il y avait une moins grande tendance à voir ce nom présent dans les urnes. Là où il y avait une tendance à manifester sur le visage, en coupant le son, je précise, une émotion de sérénité, de bien-être qui sécurise l'auditeur, et plus il y avait de bulletins dans les urnes portant le nom du candidat. À cela, on va adosser aussi le budget de communication électorale, mais vous comprenez qu'il y a un impact énorme dont les médias, les politiques, les publicitaires sont conscients, quand ils construisent quelque chose pour parler à notre sphère émotionnelle en priorité et même en détournant notre sphère rationnelle d'analyse, de jugement, de réflexion, au point même qu'on ne sait pas forcément pourquoi on a voté pour un tel ou pour un tel, on ne sait pas forcément pourquoi on a acheté tel objet, tel vêtement à la place de tel autre, on ne sait pas vraiment répondre à la question si on nous interroge pour savoir pourquoi on a acheté tel véhicule, tel parfum ou tel vêtement. On pense le savoir, mais le sait-on vraiment? Il est fort probable que la réponse soit négative. Quand j'étais ado, j'étais fan des pubs et je me souviens que j'entendais la télévision quand j'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs, que mes parents, ma mère plutôt, regardaient un film, et quand il y avait une coupure publicitaire avant le film ou après le film, j'accourais pour regarder les pubs, tellement je trouvais ça magnifique, bien construit, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait il y avait une intention profonde de nous manipuler, même s'il y avait une telle part de créativité que j'étais subjugué par l'art créatif des publicitaires. J'ai pris quelques publicités que je vais vous mentionner, bien sûr en n'ayant pas l'intention de vous pousser à devenir des clients des marques que je vais mentionner, mais pour vous montrer à quel point il y a une volonté de nous manipuler dans la publicité, et presque, pourrais-je dire, même si ce n'est pas une intention explicite, de nous prendre pour des cruches. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que nous savons qu'il y a une intention de nous manipuler, parce que je pense que personne ne l'a appris à l'instant, là, parce que je suis en train de le mentionner, mais que nous avons choisi de nous laisser manipuler. D'ailleurs, une astuce, si vous voulez baisser l'impact de la manipulation, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la pub, déjà vous coupez le son et vous regardez ailleurs. Mais ce n'est pas parce que vous regardez ailleurs que vous ne voyez pas à l'écran, parce que vous allez jeter un œil de temps en temps pour vous assurer que le programme que vous êtes en train de regarder va pas reprendre et que vous allez en manquer le redémarrage. Donc, le mieux, c'est de passer à plus de télévision et à des plateformes de streaming, par exemple, si vous voulez regarder des films. Après, c'est plus difficile si vous voulez regarder des émissions. Vous pouvez les enregistrer pour les regarder en différé et sauter les bandes publicitaires, mais c'est pas forcément évident. En tout cas, c'est une chose que je fais pour des podcasts qui sont des rediffusions d'émissions radiophoniques. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que sur une émission qui dure 2 heures à la radio, il n'y a réellement qu'une heure ou 50 minutes d'émission. Le reste, c'est de la pub. C'est important de comprendre que finalement, c'est la pub qui nous paye les émissions de radio. C'est la pub qui nous paye les films et les émissions de télévision. Quand on le comprend, on a un autre regard sur la télévision. Je pense à la première publicité qui est la publicité de l'Audi A1. Voiture, publicité automobile. Je vous mets les liens des publicités que je vais mentionner pour que vous puissiez aller vérifier ce que je vous ai expliqué. La publicité de l'Audi A1, qui est la publicité qui a été publiée en 2023, est une pub dans laquelle on ne nous parle pas de l'Audi A1. On nous montre un regard, une main, un écran, un building, etc. On ne nous distribue que de l'émotion. Une autre publicité qui symbolise l'ensemble des publicités dans lesquelles on sollicite des personnes qui sont connues. Là, il s'agit de la publicité de la Fiat 500 avec Leonardo DiCaprio. Personne ne parle dans cette publicité, dans celle-là non plus, comme dans la publicité de l'Audi A1, je crois que personne ne parle. Sauf à la fin, on va dire que vous pouvez l'acheter pour un prix de temps, machin, etc. On crée une ambiance dans cette publicité dans laquelle Leonardo DiCaprio est simplement à la pompe de rechargement électrique. Il sort son chien, il le siffle, le chien revient avec le bâton dans la gueule. Il ouvre la portière qui donne l'impression qu'un véhicule aussi petit que la Fiat 500 est bien plus grand qu'il n'y paraît. Le chien rentre et la voiture repart. On a créé une ambiance pour nous faire ressentir une charge émotionnelle qui fait qu'on va sympathiser, on va aimer la voiture par le biais de DiCaprio. Il va de soi que plus on aime DiCaprio, plus on va aimer la voiture. Et dans l'univers du parfum, c'est pareil. Je pense à Lancôme, qui a un parfum qui est très, très, très connu, et pour cause. C'est que le parfumeur a fait appel à Julia Roberts. Avec Julia Roberts, finalement, on est en train de proposer un parfum avec un slogan carrément, je veux dire, audacieux, « La vie est belle ». Vous comprenez que si vous mettez ce parfum, votre vie est belle. Vous savez très bien que ça n'est pas vrai. Et la plupart des personnes qu'on pourrait interroger dans la rue diraient « Bah non, c'est pas vrai, si je mets ce parfum, ma vie n'est pas plus belle. J'aime bien son odeur, c'est pour ça que je l'ai acheté. » Mais en fait, vous n'avez pas acheté parce que vous aimez son odeur, monsieur, madame. En général, c'est madame ou monsieur pour l'offrir à madame. Vous l'avez acheté parce que vous aimez Julia Roberts. vous l'avez acheté parce que ce qui vous a été vendu dans le spot publicitaire avec l'ambiance, etc., fait que vous avez acheté une émotion et non pas le parfum. D'ailleurs, dans un commentaire sur parfumini.fr, il est dit, je cite, « La vie est belle est un parfum plein de promesses qui procure une grande joie de vivre et sensation de liberté. » Fin de citation. Depuis quand un parfum peut-il procurer une sensation de liberté, une joie de vivre, ou bien promettre quelque chose? On est bien en train de jouer avec nos fantasmes, et ça fonctionne, ça marche, et ce n'est pas près de ne pas fonctionner. Si un jour, même si je n'y crois pas, ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait plus, les publicitaires trouveraient un autre terrain, un autre angle d'attaque. Mais pour l'instant, ça fonctionne et je vous assure que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous ai mis le lien pour une publicité de vêtements. Je me dis, je vais prendre aussi l'univers du vêtement avec Dim qui propose un univers incroyable avec ces collants Dim qui vendent ou qui promeuvent tout simplement une expérience extraordinaire quand on porte un collant Dim. Ils disent, je cite, « Avec ce collant, vous avez un galbe vertigineux, une silhouette parfaite pour des jambes redessinées à la perfection. » Fin de citation. Deux fois la perfection est présente dans ce spot publicitaire. Quelque part, on vous fait croire que si vous portez ce collant, ce que vous ne croyez pas du tout, vous allez redessiner vos jambes à la perfection. Personne n'y croit, pourtant ça marche. Les ventes de Dim en 2022 ont été énormes. Allez chercher les chiffres. Je pourrais vous mentionner en alimentation, tiens, Nutella. Nutella, c'est de la graisse, du sucre, un petit peu de chocolat et un petit peu de noisette. Mais Nutella, je cite, c'est chaque jour du bonheur à tartiner. Ou, fin de citation, un autre slogan que je mentionne, l'amour est le plus beau des cadeaux. Fermez les guillemets. Vous entendez qu'il n'y a pas du tout de promotion du chocolat, de la noisette, et rien pour la santé, parce que Nutella, Ferrero s'est fait taper sur les doigts il y a quelques années pour des allégations santé qui ne correspondaient pas du tout à son produit. C'est là qu'on a commencé à faire preuve d'ironie en montrant la quantité de graisse et de sucre présente dans ses produits. Par-delà les enseignes publicitaires que j'ai mentionnées, en omettant de parler du café, je pourrais parler de l'achat compulsif. Vous savez, ces choix que l'on fait d'acheter quelque chose et dont on se rend compte au bout de quelques semaines, peut-être même parfois quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, qu'on a acheté ça, mais bon, voilà, on l'a acheté comme ça, on ne sait pas pourquoi, vraiment. On ne sait pas pourquoi. J'aimerais qu'à chaque fois, vous vous rendez compte que vous ne savez pas pourquoi vous avez acheté quelque chose, vous puissiez vous interroger et vous dire « là, j'ai quelque chose à apprendre sur moi ». Je m'observe. À l'avenir, je m'observerai dans mon choix. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti telle émotion, et je vais l'observer pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que mon corps a voulu me dire? J'ai vécu telle expérience dans laquelle j'ai choisi sciemment, ou plus ou moins inconsciemment, de déclencher un shoot de dopamine. Pourquoi ai-je eu besoin d'une récompense là? Pourquoi ai-je eu besoin de me faire plaisir à ce moment-là? Je ne voudrais pas que vous preniez la tête et vous coupiez les cheveux en quatre. Si vous le faites déjà trop, ne faites pas cet exercice. Mais c'est juste quelque chose que je vous propose si vous avez envie d'apprendre à mieux vous connaître, sans vous prendre la tête, et de prendre la mesure des nombreuses décisions que vous prenez pour acheter des émotions. En cherchant à plaire à quelqu'un, vous achetez des émotions. En riant autrement que vous, comme vous riez d'habitude parce qu'il y a des potes ou des collègues, vous cherchez à acheter de l'émotion. Et c'est tellement fréquent que vous pouvez avoir tendance à prendre une distance avec vous, à vous renier vous-même et à vous rendre compte au bout d'un moment que vous êtes dans ce fake, dans cette manière d'être fausse. Et ça a un impact sur votre aptitude à vous aimer vous-même. C'est là que le bât blesse. C'est là que je vous invite à vous dire non. Je veux me remettre en alignement avec moi. Je veux me réconcilier avec mon véritable moi et cesser de vouloir choisir pour plaire, pour me plaire, pour faire plaisir, pour déclencher un shoot de dopamine au détriment d'une aptitude à faire des choix parce que ça nous paraît raisonnable, pertinent, judicieux, intelligent, aidant, etc. Attention, les deux sont compatibles. C'est quand il y a un déséquilibre avec une fréquence trop élevée de décisions qui sont prises, dans lesquelles on dit finalement, effectivement, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette décision, qu'il est pertinent de se poser la question. Prenez le temps de vous observer, de vous amuser à ça, vous pouvez le faire sous forme de jeu, surtout je ne veux pas que vous preniez la tête à couper les cheveux en quatre, faites-le sous forme de jeu, observez-vous, parlez-en avec des amis, des copains, des collègues, etc. pour apprendre à mieux vous connaître et surtout à reprendre votre vie en main. Je veux vous voir avec les mains sur le volant. J'attends vos commentaires, vos questions, vos remarques, et puis ici, bien sûr, vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, et on se retrouve pour le prochain rendez-vous. Pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.